Allô, au centre d'exploration du temps, me recevez-vous?
Le témoin de ce vendredi, Merzak Alouache, cinéaste des jeunesses d'Algérie.
La houri porte 77 tenues superposées. Elle est si lumineuse sous ses 77 tenues qu'il lui suffit de soulever un seul vêtement pour illuminer la terre et ses créatures. C'est ça une houri. Je ne peux pas en dire plus sur les houris, car notre imagination est limitée. On se contente de l'imaginer belle, grande. On ne peut rien imaginer sinon qu'elle est bien mieux que ce qu'on imagine.
Le film qui vient de sortir de Merzak Alouache s'appelle « Enquête au paradis ». Une journaliste présente à de jeunes Algériens les vidéos d'imams illuminés qui promettent des vierges, des houris, à ceux qui pousseront le djihad à son extrémité. 72 vierges, 77 tenues, pas une vierge de 72 ans ni de 77 ans, enfin le paradis. En attendant, l'envie ronge les jeunes Algériens. Le chômage s'est incrusté à un niveau inouï. Glandé, traficoté, chercher le départ. L'ennui est tel que les dealers d'espoir s'y font facilement une place. Enquête au paradis s'organise autour des vidéos contenues dans un ordinateur montré ouvert. Merzak Alouache s'est souvent servi des attributs des médias comme de truchement. Il y a plus de 40 ans, dans Omar Gatlao, le film qu'il fit connaître, c'était une mini-cassette, un zinzin qui fascinait à l'époque. Plus tard, les façades des immeubles se couvrirent d'antennes paraboliques. Les yeux commencèrent à être requis par les chaînes du Golfe. Sur les minarets des mosquées apparurent des haut-parleurs. La parole des imams retentit beaucoup plus fort aux oreilles. Enfin, ce furent sur le net les consultations des imams Google et les vidéos des imams YouTubeurs. Pendant ce temps, dès les années 1980, le cinéma en Algérie s'était effondré. Disparition des structures socialistes de production, délitement des matériels, délabrement, fermeture des salles. En réalité, le cinéma n'a pas eu le temps d'exister. Mais il y eut des films, et il y en a toujours. Merzak Alouache est maintenant quasi le dernier représentant des générations de l'indépendance, mais de plus jeunes, commence à tourner, d'ailleurs avec lui, dans des difficultés encore plus grandes que celles qu'il a connues au départ. Mais ce qui l'intéresse le plus, c'est la catégorie de l'avenir, dans un pays tombé en déréliction et dans un état présidé par un vieillard cacochime.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Merzak Alouache, bonjour.
Bonjour.
Comment vous présentez alors? Quand vous riez souvent.
Oui.
L'humour est très important dans vos films. Vous dites, je suis un schizo.
Oui, oui. Je suis entre deux rives, un espèce de schizophrène, mais qui s'intéresse à un pays qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir et qui m'a vu partir, revenir.
Et revenir.
Partir, revenir. Je suis parti trois fois, en fait.
Le cinéaste des deux rives et le cinéaste des allers-retours. Alors, on va essayer de compter par le menu vos heures et malheurs en Algérie. Première génération de l'indépendance. Il y en a deux. Il y a ceux qui ont commencé dans les années 60. Vous commencez dans les années 70. Vous avez fait des études à Alger, des études aussi à la FEMIS. Quand on faisait un film, à vos débuts, le premier connu, date de 76, c'était un film qui passait par les structures de l'État.
Oui, complètement. Il n'y avait pas autre chose que les structures de l'État. Il n'y avait pas de production privée, sauf pour un film, un seul film, qui a été tourné en Algérie dans les années 60, c'est La bataille d'Alger, où là, il y a eu une structure privée qui a été créée et qui a disparu tout de suite après le film.
La vie à Alger d'Omar Gatlao, le film qui vous a fait connaître. C'est un garçon avantageux, hein?
Oui, c'est un garçon de son époque, c'est un espèce de Zazou.
Ça se voit aux chaussures d'ailleurs.
Oui, des belles chaussures, un beau pantalon, patte d'éléphant, une chemise avec un col très pointu, etc. Ouais. Voilà.
Alors il habite une cité sur les hauteurs de Bab El Oued et l'appartement est surpeuplé déjà.
Oui, déjà et toujours. Hein. toujours. C'est un problème récurrent en Algérie. Les jeunes vous parlent toujours de cet appartement surpeuplé où ils vivent et qu'ils voudraient quitter pour autre chose, quoi. Et à l'époque, il n'y avait pas ces grandes cités qui entourent la capitale, qui entourent les villes, mais il y avait ce problème de surpeuplement.
Alors, il n'a pas de chambre, il doit vivre avec une famille extrêmement nombreuse, il a l'impression de n'être jamais avec lui-même, sauf qu'il a mieux qu'une chambre, une bulle, un monde, c'est la mini-cassette.
Ça, c'est ma mini-cassette, du haut marché noir. C'est du solide. Mon passe-temps préféré. Une trentaine de cassettes. Mon trésor, les enregistrements de Chaabi, les directs de mariage. Le Chaabi, c'est ma passion, ça me tue. Certains apprécient, d'autres pas. J'aime aussi la musique hindoue, surtout dans les films. Si j'étais une femme, je pleurerais en l'écoutant. J'ai trois bandes de films enregistrées au cinéma Olympia.
Il y avait des salles de cinéma assez nombreuses.
Il y avait beaucoup de salles de cinéma. Et donc, à l'époque, avec sa cassette, hein, qui a disparu depuis, il se créait sa propre playlist. Et donc, les cassettes audio en Algérie sont arrivées par hasard. On ne sait pas comment, alors que nous étions dans une situation de pénurie. Et ils ont carrément remplacé les disques micro-sillons.
Alors, de sa mini-cassette, qui va connaître beaucoup d'aventures, peu importe pour l'instant, sort à un moment clé du film une voix de femme qui le fait rêver. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs la vie amoureuse? Comment s'exerce-t-elle pour Omar Gatlaou?
C'est Omar Gatlaou. Gatlaou, ça signifie que... Il y a quelque chose de terrible qui le tue, quoi. Ah oui, le machisme est tellement fort en lui qu'il l'empêche de respirer, de vivre. Ben, la cassette, pour lui, c'est vraiment une respiration. C'est une respiration. Et ça va être aussi quelque chose qui a un rapport avec cette musique Chaabi qu'il entend, qui est une musique un peu fantasmagorique, des chansons qui font rêver.
Le cinéma algérien va peu à peu se déliter. Le monopole d'État disparaîtra à la fin des années 1980, qui sont un moment très important. En 1988, émeute, événement considérable, libéralisation du pays pendant un moment, transformation de l'audiovisuel à laquelle vous participez.
Oui.
Vous faisiez des émissions de télé à ce moment-là.
Oui, oui. J'ai eu une seule émission de télé où j'avais demandé à ne pas être censuré, que si par hasard j'étais censuré, j'arrêtais. J'ai pu travailler sans être censuré pendant 6 mois.
Mais le FLN ne va plus être le seul parti. Éclosion d'innombrables formations. Et puis va se développer le FIS, le grand parti islamiste, qui manque de remporter les élections, mais le pouvoir militaire décide d'interrompre le processus électoral 1992. La situation ensuite est extrêmement difficile à Alger. Et là, vous allez tourner un film qui s'appelle Babelwed City. C'est un film, dites-vous, de monte en l'air, de cambrioleur. Enfin, vous avez volé les images.
Oui, oui, carrément. Mais la situation est difficile en Algérie. D'ailleurs, quand j'ai écrit ce scénario, je parle de l'intolérance, je parle d'une violence qui s'est installée bien avant cette histoire de processus électoral qui est arrêté. C'est-à-dire que nous sentions à Alger que ces islamistes allaient devenir très violents, quoi qu'il arrive. Nous savions que la situation basculait parce que, bien avant ces élections, des milliers d'islamistes sortaient dans la rue, défilaient et promettaient vraiment que nous allions passer un mauvais quart d'heure. Et nous avons passé plus de 10 ans de temps de violence terrible.
Mais on essaie de garder le fil de votre méthode.
Oui.
Youssef Chahine dit ce fils de pute, il parle de vous. Hein. Oui. Il trouve toujours des symboles extraordinaires. Alors, sur les toits de Babelwood City, vous regardez de très près les antennes paraboliques qui se dressent.
Oui.
de plus en plus nombreuses et qui permettent de capter quelles chaînes à partir de ce moment-là?
Alors, à ce moment-là, on commence à capter les chaînes européennes. Il y a aussi dans les mosquées déjà des prêches qui disent attention, c'est des chaînes qui appartiennent au diable, l'impérialisme, etc. C'était très difficile d'avoir ces antennes paraboliques et les gens commencent à découvrir des images qui viennent d'ailleurs. Nous avions en Algérie une seule chaîne qui s'appelait la chaîne unique, la télévision algérienne. Et quand nous suivions Dallas ou Colombo, tout le pays suivait le même programme.
Et il y a les antennes, mais aussi les haut-parleurs des mosquées. Youssef Chahine dit, c'est pas du tout comme un appel de muezzin traditionnel dont on peut s'éloigner, c'est quelque chose qui vous éclate aux oreilles. Ouais. Surtout que ça peut durer des plombes.
Des plombes. Voilà, alors les haut-parleurs arrivent en même temps que les antennes paraboliques et on a l'impression que c'est une espèce de concurrence. Bon, personne n'a tourné un documentaire sur ce double phénomène. Et c'est, en fait, ces haut-parleurs donc, qui sont disséminés sur tous les toits, toutes les terrasses qui entourent une mosquée peuvent donc diffuser le même discours dans un quartier. Et ce discours n'est pas seulement l'appel à la prière, comme normalement ça devrait être, mais c'est des prêches politiques qui sont directement données par le parti, le fils, le Front islamique du salut.
Alors, soit un jeune homme, il s'appelle Boualem, il est mitron, c'est-à-dire que quand il sort de sa boulangerie après une nuit de travail, enfin, il aimerait bien dormir, mais non.
Il y a un hadith de le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam.
Le prophète, que le salut soit sur lui, a dit « L'hygiène fait partie de la foi. La saleté est l'œuvre du diable. Pourtant, nos rues sont envahies de saleté jusqu'au seuil de nos demeures. Personne n'agit, comme si nous ne voyions rien. » Ouvrons les yeux. Luttons contre la saleté qui nous cerne.
Alors voilà, il n'en peut plus. Toujours le symbole extraordinaire, comme dit Chahine. Et il arrache le fil et le haut-parleur qu'il jette par-dessus bord.
Voilà. Il le jette à la mer. Parce que ces prêches, alors que j'ai choisi quand même un prêche très social, hein, qui parle de la saleté. Dans la réalité, les prêches sont beaucoup plus violents que ce que j'ai choisi. Moi, je voulais être un peu soft à l'époque. Et donc, il jette ce haut-parleur et donc les choses commencent à se passer mal pour lui, quoi. On recherche qui est ce mécréant qui a osé enlever ce haut-parleur, donc qui a osé arrêter la parole de Dieu. Et donc, voilà, le film s'articule autour de ce problème de haut-parleur.
Le tournage a été difficile, les moments qui suivent sont marqués par une violence grandissante. Vous dites toujours dans le même entretien, à cette époque-là, avec Chahine, le cinéaste égyptien, on nous disait « va-t'en ou je te tue ». On ne nous disait pas « tais-toi ou je te tue, va-t'en ».
Oui. Oui, on voulait se débarrasser de toutes les manières. On commençait. On voulait se débarrasser déjà des intellectuels, en tout cas des démocrates, de tous ces gens, les francophones, etc. Donc on mettait tous les gens qui n'étaient pas dans le fils étaient contre le fils. Et s'ils étaient contre le fils, ils étaient contre Dieu. Donc on voulait s'en débarrasser. On a commencé par les menaces et on a terminé par les assassinats.
Alors les assassinats, on se souvient des personnalités les plus célèbres qui ont disparu dans ces conditions, mais il y en a bien d'autres.
Ouais.
Tahar Djaout, c'était pendant le tournage.
C'était pendant le tournage.
Ça vous a fait interrompre le tournage ou réfléchir encore davantage à la nécessité du tournage?
Ça m'a fait réfléchir, surtout que c'était un tournage qui ne suivait pas tellement le scénario. Moi, j'ai écrit le scénario avant que ne commence la violence armée, et je me retrouve à tourner pendant la violence armée. J'ai essayé d'articuler les choses pour être en phase avec ce qui se passait, et surtout, j'ai essayé de protéger ma petite équipe, qui était une équipe mixte, puisqu'il y avait des Français qui étaient là, qui étaient dans l'équipe, et nous tournions à la Casbah, à Bab El Oued, dans des quartiers vraiment très difficiles, très chauds. Je ne comprends pas comment j'ai pu aller jusqu'à la fin du tournage.
Mais le scénario de votre disparition était sans doute écrit à ce moment-là et vous avez dû partir. Et dans ces mêmes années, disparaît Matoub Lounès, que vous avez bien connu et qui a failli prendre place d'ailleurs dans votre dernier film, Enquête au paradis. Vous avez plus tard tourné sur les lieux de sa disparition.
J'ai tourné. J'ai tourné dans sa maison, j'ai filmé sa voiture, criblée de balles, etc. Mais à l'époque, déjà en 94, je suis monté dans les montagnes kabyles et j'ai filmé dans son village, Matoubouloounès. Je l'ai interviewé alors qu'il était chez lui et qu'il ne voulait pas partir.
L'ordre va, l'ordre donnait, j'ai remis le tergait, j'ai rirté la médiait, au soubhat, au frère,
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie du cinéaste algérien Merzak Alouache. Voici ce que disait votre ami. Ma langue est donc bien pendue, il faut que j'y couse des ourlets. Ma patrie berceau de mon enfance, pourquoi suis-je né? Ma patrie berceau de mon enfance, ai-je même un ami? Question que vous vous êtes posée. Ai-je même un ami en Algérie?
Je me posais pas la question parce que nous avions des amis. La discussion portait sur le départ, beaucoup plus que sur la résistance, malheureusement. Alors il y en a qui sont restés, qui ont résisté, d'autres sont partis, d'autres sont morts. C'était une période vraiment très, très difficile, particulièrement parce que nous nous sentions isolés par rapport à l'extérieur. On avait l'impression que l'Algérie n'intéressait plus personne. Les liaisons aériennes étaient pratiquement suspendues. Et ça, c'était grave. Moi-même, par rapport à mon rapport avec les cinéastes arabes, par exemple, à part Youssef Chahine, je sentais cet isolement. Je ne sentais pas de solidarité. Et ça, c'était vraiment touchant pour nous.
Le retour s'est fait quand? En une fois? En plusieurs fois? Avec des essais?
Oui, je suis revenu en 1999. Il y a eu donc des négociations entre l'armée, les groupes terroristes. Il y a eu ce qu'on appelait la concorde civile, une paix retrouvée. Et donc je suis retourné pour essayer de continuer à parler de cette nouvelle génération, qui était la génération d'après les massacres, d'après les attentats. Et donc, je me suis retrouvé au centre d'une atmosphère d'amnésie. Je croyais que j'allais arriver à avoir beaucoup de discussions sur ce qui venait de se passer en Algérie, sur le fait que des Algériens se sont entretués, se sont massacrés, se sont égorgés. Et non, je trouve un silence. Il y a un silence officiel. Et puis, beaucoup de gens ne veulent plus parler de ce qui s'est passé. Donc, moi, je continue à travailler sur justement cette tragédie. Je tourne un film en 1999 où il est question du terrorisme. Mais aujourd'hui, paradoxalement, en Algérie, depuis ce qu'on appelle les printemps arabes, on s'est remis à parler de cette période pour essayer d'exorciser l'avenir, pour exorciser ce qui risquait d'arriver en Algérie. Donc on s'est dit, nous avons déjà vécu cette révolution et ces malheurs qui ont été présents en Algérie, nous ne voulons pas que ça recommence, donc restons tranquilles.
Si vous voulez bien, on va continuer à saisir le fil. Enfin, c'est même carrément un câble. Parce que quand vous revenez, l'ordinateur, évidemment, s'est démultiplié en Algérie et vous tournez un film qui ne s'appelle pas Babel Web City, mais Babel Web. Oui. Et il y a des cybercafés un peu partout.
Oui.
Et là, c'est un jeune héros. C'est toujours le même âge, hein, 25 ans. Mm-hmm. Il a la chance d'habiter un immeuble au pied duquel il y a un cybercafé. Là. Oui. Oui. Quand il peut, même de bon matin, il descend à babouche.
Oh, tu es tombé du lit ou quoi?
Tu peux me faire un café, s'il te plaît?
Bien sûr.
Tu me branches?
Il y a une urgence.
Quelle urgence? Je suis juste venu lire mes messages.
Et ça se passe bien, votre invité?
Ouais.
Tu lui as parlé?
Parler de quoi?
Quelle tête pour partir?
Laisse tomber. L'ordinateur, il met une heure pour s'allumer, là.
Doucement, doucement le clavier.
Tu veux que je te dise ?
Quoi ?
Quand l'ordinateur, il s'allume, bah, c'est comme si... Comme si je respirais de l'air pur. Voilà. C'est ça. Parce que tu vois, là-haut, j'étouffe. C'est tout.
L'ordinateur permet de respirer de l'air pur. L'invité qui est là, c'est une Française ?
Oui.
C'est pas n'importe qui, parce que vous avez du flair quand même, pas seulement de l'oreille. C'est ouais. Julie Gayet, non ?
Oui, oui. C'était elle qui jouait dans ce film.
Et alors, les autres acteurs ?
Alors là, le patron du cybercafé, c'est mon acteur de Omar Gatlato, Boualem Benali, qui reprend du service. Et le deuxième frère, c'est Samina Seri.
Et Boualem, l'acteur de Omar, qu'est-ce qu'il est devenu d'ailleurs ? Puisque c'est quand même ça, le fil que nous suivons, les jeunesses successives, génération après génération. Alors lui, qu'est-ce qu'il est devenu dans la réalité ?
Ben, dans la réalité, c'est un acteur professionnel du théâtre national et qui a continué à travailler, qui est un professionnel du théâtre,
Parce que le théâtre a continué mieux que le cinéma.
Oui, le théâtre continue à fonctionner beaucoup mieux que le cinéma et donc il a pris sa retraite dernièrement.
Et voilà. Les enfants, ils sont passés de l'autre côté ?
Oui, ses enfants sont passés de l'autre côté. Et il vient les voir régulièrement.
Parce que là, c'est le rêve de Bouzide. C'est pour ça qu'il veut parler avec Julie Gayet, et puis qu'il est si attentif à ce qui se passe sur l'ordinateur. Oui. Il veut passer de l'autre côté.
Oui, il veut partir. Et donc, cette problématique s'est vraiment démultipliée depuis le temps que ce film a été tourné. Donc, à l'époque, nous avons Internet en Algérie, mais nous n'avons pas d'ordinateur chez soi. Hein. La plupart des jeunes ne peuvent pas acquérir un ordinateur ni Internet, quoi. Donc, les cybercafés sont là et il y en a partout, dans tous les quartiers, les quartiers populaires et dans toutes les villes.
Et là, c'est l'amour virtuel ?
C'est l'amour virtuel qui continue, un peu comme Omar Gatlato. C'est-à-dire, on est toujours dans cette frustration en fait sexuelle aussi, qui est un peu la source de l'embrigadement de ces jeunes à travers les générations.
Dernière étape, on en vient au film qui vient de sortir sous votre signature, Berzak Kalouach, le net, les vidéos. YouTube, et sur YouTube, le pouvoir, on va l'entendre, va être pris par les imams Google, mais aussi peut-être par les rappeurs. Alors là, on est dans une salle, vous dites qu'il y a toujours des lieux théâtraux, on est dans une salle à Alger avec un groupe de rappeurs. L'un d'entre eux chante sa mère, la femme idéale. Sa mère, aujourd'hui, dit-il, c'est la pagaille dans ma vie. Mais toi, ma mère, maman, la seule personne à qui je puisse faire confiance, j'ai sûrement te retrouver dans l'éternité. Clairement, ma chère maman, on m'a même il a ta gamme de l'Dnia, bichet gentil. Le djinnat est écrasé parce que tu es djinnat de l'Dnia. Ben, je suis fou, on m'a dit que je suis un ami. Ma touche, je suis un monde, ma fiche, je suis un ami. Dis, maman, tu es galbé, ou mon mot, un ami. Bla, bic, rané, m'rboun. Wallah, vraiment, qui ne te fait pas que n'en rame. Une fois le rap terminé, la journaliste qui fait l'enquête, le personnage Truchement, ouvre son ordinateur, montre une vidéo. Sur cette vidéo, un imam youtubeur qui explique les mérites que conquerront les djihadistes qui se verront offrir à leur disposition des vierges extraordinaires, des houris.
Il nous explique ce qu'il y a au paradis. Ce qui nous excite et nous attire ici, là-bas, ça nous excitera et nous attirera davantage. C'est incomparable ce qu'il y a au paradis et sur terre. Je respecte tous les interdits religieux. En tout cas, j'essaye. Parfois, je me trompe, mais j'aimerais ne pas trop me tromper et ne pas trop m'éloigner de ces interdits religieux. Mais ces choses-là, surtout en ce moment, elles sont au centre des préoccupations. Les drogues, les femmes. C'est l'époque. L'argent. C'est l'époque qui veut ça. Les gens veulent vivre à la bien, à la cool, quoi. Tu comprends ?
Ce cheikh nous explique qu'on doit s'abstenir, genre, on doit laisser l'envie nous ronger, après, on fera comme on veut.
On a traduit littéralement, comme vous le faites, c'est un peu confus dans l'argumentation.
Oui, c'est un discours très confus. Alors, ce prédicateur, ce n'est pas un imam, hein, c'est un prédicateur, c'est disons un prédicateur cathodique. Il y en a des milliers. Qui sont en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, et qui interprètent le Coran comme ils veulent. Et là, donc, je suis tombé à la base de ce film, je suis tombé sur cette fameuse vidéo qui m'a fait d'abord rire, ensuite qui m'a fait réfléchir, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que peuvent penser des Algériens très divers d'une vidéo pareille. Et donc, c'est sur cette idée que j'ai construit mon documentaire. Et donc, le résultat est édifiant.
Bah oui, parce que beaucoup d'Algériens prennent tout ça très au sérieux.
Et beaucoup.
Et d'Algériennes aussi.
Pratiquement les jeunes sont vraiment touchés par cette vidéo, donc sont touchés par ce discours. Et il s'agit là d'un discours salafiste qui se développe un peu partout. Et qui a maintenant un impact parce qu'il utilise vraiment les moyens modernes que sont Internet, YouTube, Facebook. Et donc, il arrive à toucher les jeunes.
Mais vous me direz que nul pays n'est épargné. Enquête, elle vaut ce qu'elle vaut, de la fondation Jean Jaurès à la suite de la dérégulation de l'information. 10% des Français pensent que la Terre est plate, etc., etc.
Oui, oui. Il y a en même temps le modernisme et une crédulité incroyable. Effectivement, il y a aussi un prédicateur qui déclare sur YouTube que la Terre est plate.
Et les Américains sont nombreux à le penser, comme quoi les Algériens sont moins isolés que vous ne l'imaginez. Il y a quand même un handicap en Algérie. Tous les extraits de films qu'on a entendus de vous voient s'entremêler de manière chaotique la langue arabe, peut-être le kabyle, le français, dont surnagent quelques mots.
Oui. Oui, c'est un héritage de la colonisation, un héritage donc d'une arabisation mal faite, l'héritage aussi de certains interdits, puisque la langue kabyle était interdite, n'était pas acceptée, etc. Et dans la population, il y a cet arabe parlé, purement algérien, la derja, et qui utilise toutes sortes de mots, qui utilise toutes sortes de langues sans problème. Donc nous sommes vraiment dans une situation très, très compliquée où en même temps, ces jeunes qui apparaissent comme des petits réactionnaires sont en même temps des méditerranéens, en même temps, donc, ils ont de l'humour, enfin, tout se mélange. C'est ce qui est intéressant et c'est ce qui est dangereux.
Alors, la jeunesse et ce qui vous intéresse au premier chef, tournez-vous avec des jeunes, et qu'est-ce qui se passe pour les héritiers du cinéma, enfin le mot cinéma est excessif, algérien, pour les jeunes qui veulent tourner en Algérie?
Eh bien aujourd'hui, donc, les jeunes qui veulent tourner sont un peu dans une situation très difficile, beaucoup plus difficile qu'à notre époque, parce qu'il n'y a plus de structure, il faut vraiment foncer dans un environnement qui est à la limite hostile, on a l'impression qu'on n'a pas tellement envie de cinéma. Il y a des jeunes qui sont là, qui sont sur place, qui ont envie de faire des choses. Il y a aussi des jeunes issus de l'émigration qui viennent en Algérie pour essayer de raconter des histoires. Bon, voilà. Donc, il y a eu un problème aussi d'une génération qui a été oubliée. C'est la génération de ces années de plomb, de ces années de terrorisme. Donc, on a sauté une génération et la nouvelle génération arrive dans un désert sans avoir de tradition, sans avoir d'autres cinéastes qui la poussent. Donc moi j'essaye de tourner avec les jeunes techniciens, les jeunes acteurs, etc. Et je vois vraiment leur volonté pour vouloir faire des choses dans le cinéma.
On parlait technique depuis le début, on a maintenant des moyens beaucoup plus économiques.
Oui. Oui, alors ces moyens plus économiques permettent à des jeunes de la nouvelle génération et me permettent aussi de tourner des films à tout petit budget, de tourner très vite, etc. Et il y a énormément de films. Pour moi, la nouvelle génération est surtout sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de films qui sont tournés, des courts-métrages, qui sont tournés avec des petites caméras, qui ne trouvent pas de sortie, qui ne sont pas programmés sur les chaînes de télévision algériennes, bien sûr, et qu'on retrouve sur YouTube. Donc il y a un espoir.
Mais il y a en France des salles toujours, et on peut souhaiter à Enquête au paradis, qui est sorti il y a 10 jours, petit budget, un grand succès. Merci à vous, Merza Kalouache. L'émission a été préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin, Louise Harwin, Ilinka Negulesco, à la réalisation Audrey Ripouille et à la technique Sacha Tropp.